manquez pas la 3e édition de la Biennale internationale d'art numérique du 3 juin au 3 juillet et la 17e édition du festival Electra du 1er au 5 juin sous le thème. Ne manquez pas la 3e édition de la Biennale internationale d'art numérique du 3 juin au 3 juillet et la 17e édition du festival Electra du 1er au 5 juin sous le thème Automata, l'art fait par les machines, pour les machines à l'Arsenal Art Contemporain. Découvrez plus de 60 œuvres et performances dont Inferno, les 25 exosquelettes de Louis-Philippe Demers et Bill Vorn. Rendez-vous pour la nuit Automata le 3 juin à l'Arsenal. Plus d'infos, bianmontréal.ca.
Du 27 au 2 juillet, c'est le Minifest au Medley Simple Malte. Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles, dont Eddie King,
Fred Dubé,
Yannick Demartino,
Gabriel Caron,
Didier Lambert,
Jean Beauchesne,
Daniel Grenier,
Chantal Lamarre
et plusieurs autres.
Le Minifest, le 19e plus gros festival d'humour à Montréal.
Pour plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com. L'Auto-Québec présente la 30e édition anniversaire du Festival international des Nuits d'Afrique à Montréal. Plus de 700 artistes du monde entier viennent à votre rencontre du 12 au 24 juillet. Profitez des forfaits spectacles et découvrez toute la programmation sur www.festivalnuitsdafrique.com.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
Bonjour à tous et bienvenue à ce 100e épisode de Pop en Stock. En fait, c'est quand même assez imposant, là, 100 épisodes que l'on célèbre aujourd'hui avec une très très belle compagnie. Ah oui, c'est 100 épisodes, c'est quand même assez intense quand tu y penses de même. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et ça me fait terriblement plaisir d'accueillir en studio, comme je vous disais, qu'une masse de gens fantastiques et individuels. Vous êtes vraiment tous des personnes extraordinaire, mais avant, excusez, c'est les nerfs, c'est vraiment bizarre, tu fais ces affaires-là semaine après semaine, puis là, t'arrives à ton anniversaire, tu fais comme, je sais plus quoi dire.
L'émotion.
Mais,
ça va bien aller.
Oui, je pense que ça va tranquillement, le métier va rentrer.
après 100 épisodes, c'est bon, c'est rassurant.
C'est la moyenne à laquelle on aspire. Je veux vous dire bonjour, mais je veux aussi dire bonjour et félicitations à tout le monde qui sont pas en studio. Les gens qui ont permis ça, Samuel Archibald, évidemment, Antonio Dominguez-Eva, je vais parler à Hélène, qui est à New York présentement, avec Maxime Robin, qui nous aide avec la mise en onde. Évidemment, Maxime Raymond, des éditions Ta Mère, toute l'équipe de Choc qui nous ont vraiment, vraiment donné un coup de main pour l'élaboration de ce projet-là. Francis Ouellette, qui fait plus partie de l'équipe, mais qui a été instrumental pour une bonne gang d'épisodes. J'ai eu énormément de plaisir à travailler avec toi, Francis. Myriam d'Aguzan-Bernier, qui a offert un support et une énergie incroyable, elle n'a pas été assez d'émissions pour représenter tout le love qu'elle a injecté dans le projet Pop en Stock. Évidemment, Guillaume, que t'es là, c'est vraiment cool. Non, mais t'étais là depuis le début.
Ah, bien, hein?
Tu faisais partie des gens que j'étais comme, ah, oh, man, il faut que je remercie. Il y a énormément de gens à remercier. J'espère que je vous oublie pas pour les gens qui seraient à la maison, mais vous avez tous été extraordinaires. Et les gens qui sont ici en studio, vous autres, vous êtes extraordinaires aussi. J'aimerais, en vous présentant, que vous soyez capable de nous dire quand est-ce que vous avez embarqué dans l'expérience de Pop en Stock. Je commence avec Rachel Hippolyte. Allô?
Allô? Moi, je pense que de toutes celles qui sont ici, c'est moi qui suis arrivé le plus récemment. J'ai participé à l'épisode, mon premier épisode, c'est l'épisode sur le café en octobre de 2015. Donc, voilà.
Je suis pas sûr. Moi, je pense plus jeune. Je suis pas sûr.
Alexandre Poirier?
Ouais, peut-être. Je sais pas, novembre, décembre?
Moi, dans ma tête, tu faisais partie des meubles.
Non, mais je suis comme à l'aise dans la vie. Fait que, tu sais, j'ai l'air d'être pas partie des meubles vite, mais non, vraiment pas, tu sais. Je suis comme Ikea, tu sais, j'ai l'air vintage, mais vraiment pas. Je viens d'être monté, puis non, c'est ça.
Bon.
Je pense à novembre. Je sais, je me souviens plus c'est quoi l'épisode.
Oui, OK.
Wow.
Oui, c'était l'épisode sur les board games, puis je pense que c'était en décembre.
Ça se peut.
Ça se peut fort bien. Je me rappelle d'avoir écouté cet épisode-là. Ouais.
Puis, Megan, toi, c'était...
Moi, mon premier épisode, c'était l'épisode sur Fifty Shades of Grey.
Donc,
en février 2015, si je me souviens bien,
Avec la sortie du film, probablement.
Ouais, exactement.
Ouais. Puis on avait fait le Fifty Shades of Cookbook aussi pendant cet épisode-là. On avait appris ton poulet au complet, à la manière SNM en studio. Ça sentait super bon. Elisabeth Simpson?
Moi, mon premier épisode, c'était avec toi-même et nous parlions du canon de Star Wars.
Ah ouais!
Avec Clément, qu'on salue en France.
Ben oui! Hey, man, merci beaucoup, c'est vrai!
Et c'était aussi le dernier épisode, si je ne m'abuse, de Francis Ouellet.
Oui.
Donc voilà, c'était un épisode fort important et qui a été vraiment plaisant.
Hey, merci beaucoup d'avoir comblé ça. J'avais complètement Clément qui est retourné en Europe, qui a fondé Pop en Stock France. Mm-hmm. Aussi, c'est pas n'importe quoi. Puis que bon.
Shout-out à toi.
Bonjour Clément, c'est vraiment un oubli criminel de ma part.
Ça c'est autoflagellation et continue ton animation.
Ok, Clément, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux? Je t'aime. Et Guillaume.
Oui.
Couture.
Oui, bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien. C'est un retour à l'émission pour ma part. Je suis un collaborateur un peu trop infréquent. Et je suis face au fait que j'ai la mémoire digne de Doris dans Trouver Nemo, donc je ne sais pas trop. Ça devait avoir rapport avec le jeu vidéo. Ça devait être fin 2014, peut-être, environ.
Moi, je pousserais l'audace à croire que tu étais là au troisième épisode sur GTA V.
Oh, oui, GTA V, ben oui. Avec ben oui, avec Samuel. Puis, oui.
Non, ça veut dire que t'as...
Je suis un marathonien, là.
Donc, merci, longtemps. Merci énormément à tout le monde qui a participé. Merci beaucoup à vous tous en studio. Je vais comme remercier jusqu'à la fin de mes jours.
C'est si touchant quand même de ta part.
Il me sort dure 1h30, mais c'est 30 minutes de remerciement. Puis 1 heure, comme d'habitude. Ça va.
Mais c'est exactement là où je m'en allais. Comme vous l'avez... cru bon le remarquer sur votre petit podcatcher, l'émission dure 1h30 parce que Megan avait proposé qu'on tente de répondre à une question qui n'a pas de réponse. Qu'on se dise que c'est vous deux, c'est qui?
Ben.
Tiens, un
vas-y, je te donne le mérite, là.
C'est bon.
De dire, regarde, on va faire le centième épisode, ça serait tout autre chose. Le centième épisode sur la question du geek, puis de dire, est-ce qu'en 1h30, on est capable de le définir? Donc, la question est lancée de cette manière-là. What is a geek?
Gros défi.
C'est un gros défi, mais en fait, c'est une réflexion, en fait, qui suit tout le monde... qui est un tantinet peu intéressé aux objets de la culture populaire. Je pense que à chaque fois que tu te retrouves dans un con, à chaque fois que tu es dans un Comic-Con ou à chaque fois que tu es dans une boutique ou dès que tu es devant un objet aimé ou convoité, cette question-là est toujours un peu dans le fond de ton esprit. Tu sais, qu'est-ce qui fait de moi un geek de cet objet-là ou de cet événement-là ou de cet environnement-là?
Mais en même temps, c'est un acquis que nous le sommes, geek, en fait, face à ces objets-là. Donc, on le sait sans le savoir, c'est quoi un geek?
Oui, je pense que c'est ça la complication de le définir. Ouais. C'est qu'il n'y a personne qui veut vraiment mettre l'introniser dans le Robert puis dire c'est photo de ou c'est une définition succincte en quelques lignes puis dire c'est ça.
C'est vrai, puis je veux pas aller trop vite parce que je sais où Guillaume s'en allait un petit peu avec son idée, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans le geek, en fait, qui est... un peu comme un hipster ou tu sais comme quelque chose que des fois les gens vont s'auto-proclamer en fait parce que quelqu'un si mettons on disait je sais pas mais mettons qu'un geek c'est quelqu'un qui tripe sur les jeux vidéo. Mais beaucoup de gens tripent sur les jeux vidéo. Ma propre mère qui a passé une bonne partie de mon adolescence à blasphémer contre les jeux vidéo. Aujourd'hui, même si elle appelle ça des petits jeux pour trouver des petits mots sur son téléphone, c'est des jeux vidéo.
Mais là, on tombe dans une micro-discussion de qu'est-ce qu'un gamer.
Non, mais tu comprends? Non, mais ce que je m'en allais avec ça, c'est juste mon introduction, mais dans le fond, ce que je voulais aller avec ça, cette idée-là, c'était que quelqu'un qui va aimer les films de super-héros, quelqu'un qui va aimer les jeux vidéo, quelqu'un qui va aimer même faire du jeu de rôle, quelqu'un qui va triper, va porter des chandails de je sais pas moi, de Hulk ou de Captain America, n'importe qui qu'on pourrait s'imaginer pourrait s'auto-revendiquer geek ou pas, puis dire non, je fais pas partie de ça parce que dans le fond, je suis pas C'est comme si on avait toujours le geek de l'autre.
J'aime
c'est...
beaucoup le ou pas.
Le meilleur exemple, je pense, c'est le chandail de le t-shirt qu'on peut acheter des Avengers faux vintage là,
ouais,
en magasin.
Ouais, ouais, ouais.
Ou
ouais.
Detox.
Donc, c'est ça, on a vu le film, on aime les héros, on achète un t-shirt qui représente les héros dans leur costume digne des années 70, faux magané. Là, on s'abreuve à quelle source à ce moment-là?
Oui, ouais, ouais, absolument.
C'est ça.
Oui, c'est un vintage qui est préfait en quelque sorte. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression, ces réflexions-là par rapport au geekdom puis la culture populaire puis tout, on s'en cachera pas, est beaucoup plus avancée aux États-Unis. Mm-hmm. Puis que je pense que dans la, si on a pu en participer un tantinet peu, c'est vraiment extraordinaire. Mais dans les dernières deux années, je sens un crépitement tranquille de la réflexion qui s'en vient vers le Québec. L'émission tombe pour moi très à point, en quelque sorte, parce qu'on est à l'avant-garde de ce mouvement-là. En fait, vous représentez, en quelque sorte, tous une grande avant-garde, à mon avis. Alexandre, avec l'étude en jeux vidéo dans à l'UDM. Megan, qui est véritablement dans la première vraie vague d'Hackathon à l'UQAM. Elisabeth, qui s'y intéresse, puis que c'est pas du tout ton domaine.
Pas du tout. Non, moi, je suis intervenante sociale.
C'est ça. Rachel aussi, qui est capable d'aller chercher tout ce bagage-là pédagogique et de l'appliquer. Guillaume, tu fais sans doute partie de la première vague des YouTubers québécois.
Je suis producteur de contenu, en fait.
C'est ça.
Producteur de culture, là, c'est avec un petit C, mettons. Là.
Oui, mais il est là.
Star du web aussi.
Il y a comme un... Star du web.
Connu life, hashtag.
Mais il y a comme un... C'est en train d'embarquer, cette réflexion-là. Puis le fait qu'on soit capable de se rassembler ici pour en parler, je trouve que c'est un moment très important.
En français, en fait.
En plus.
Tu sais, ça avait été une des affaires quand j'avais commencé à faire... parce que je m'étais intéressée pour l'émission à la langue geek. Puis la question que je me posais en quelque part, c'était sur la francisation. Est-ce que ça se francise, ce terme-là?
C'est vrai, puis
en faisant mes recherches, ben de trouver du stock en français sur qu'est-ce que je voulais sur la construction de la langue geek, ça a été assez complexe. Mm-hmm. Puis ben c'est ça, puis ce n'est pas en cherchant dans les trucs de l'Office québécois de la langue française que ça m'a beaucoup aidé. En fait, ça m'a surtout fâché parce que quand tu tapes geek, puis là tu veux avoir l'équivalent, tu sais, tu peux faire ça sur le grand dictionnaire terminologique, donc taper un terme anglophone et ça va te donner le truc en français. Donc lorsque j'ai tapé geek, ça donnait maniaque d'Internet.
Ah!
Oui, oui, oui. Oh. Puis là, il mettait pour le terme geek, il mettait quelque chose que j'ai noté parce que je m'en rappellerai pas par cœur. Puis j'étais pas très contente. Attends, j'avais vu ça. Ah oui, donc c'est ça, c'était écrit. Le terme geek, difficilement traduisible en français, véhicule des connotations négatives. Tout d'abord, à cause de sa prononciation simulant le babillage des enfants et aussi par son association avec son homographe utilisé pour désigner un clown de carnaval. J'ai lu ça, pis j'étais comme, ben voyons,
c'est quoi ça? Ah.
J'ai envoyé une capture d'écran à des amis. En disant what the fuck le QLF pour l'ensemble de ton œuvre.
rien de moins.
Mais là-dessus, tu sais, non.
Ben non, mais c'est ça, c'est drôle parce que le carnaval, ça revient à la définition étymologique initiale du mot geek.
Absolument.
Ouais. Mais qui est pas vraiment prise en considération. On connaît tout le inside joke qu'un geek, c'est la personne qui arrache la tête du poulet avec ses dents dans les cirques.
Ouais.
Fait que là, il en parle ou il glisse une mention à cette idée carnavalesque, mais pas vraiment.
Mais pas vraiment. Puis, tu sais, aussi, ils ont un guide sur différents termes sur le geek, mm-hmm. qui ont nommé ça vocabulaire du jeu vidéo. Oh, excusez, ouais.
Allô?
Je parle. Allô?
Oui!
Ça, je parle fort. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis éloigné du micro. Bon, en tout cas, bref.
Je suis là pour ça.
Yay! Mais non, c'est ça. Puis, il avait fait. C'est le guide en question qui révèle différents phénomènes geek parce qu'il n'y a pas juste le jeu vidéo, ben
il y a l'internet, il y avait autre chose,
mais ils ont quand même nommé ça vocabulaire du jeu vidéo, tu sais. Mais ils parlent de cosplay. Puis là, par exemple.
Et là, tu lis le terme français de cosplay qui est costumade.
Costumade.
Un peu de vomi, mais ça va, ça se replace après quelques instants.
Oh oui. Mais c'est ça, c'est le fait, comme, dans le fond, de
Ça, mais c'est une définition un peu lacunaire. Là. Ça, oui. Ça fait référence au passé étymologique du mot, mais ça fait aussi référence à l'usage actuel, mais pas complètement non plus. Mm-hmm. C'est ça, c'est fragmenté.
Tu lis ça, on essaie de... Ouais. C'est que tu lis ça, puis il y a plein d'affaires qui sont incomplètes là-dedans. Ça a été... bref.
ça ressemble à des gens qui ont fait une définition à partir de ce qu'eux connaissaient, mais en même temps, c'est un phénomène tellement large qu'on peut pas englober ça dans une définition. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Absolument.
Mais ça me fait penser au phénomène. En fait, je trouve que t'as donné un bon exemple qu'on peut regarder et qu'on peut critiquer et un peu ridiculiser parce que je trouve qu'il est pas mal généralisé. Ouais. De tenter de le définir, c'est aussi un peu le comportement auquel on se rebute à tous les jours par rapport à ce terme-là.
Oui. Ben ça me fait penser, c'est drôle, puisqu'on on a mentionné son nom dans les remerciements, mais j'ai eu une conversation à un moment donné avec Maxime Robin autour d'un café récemment, puis je parlais du fait que bon que c'était là-dessus que j'allais venir, puis il me disait dans le fin fond un des problèmes probablement de la frustration que t'as, c'est que tu sais, les gens qui définissent le geek à l'Office de la langue française sont pas des geeks eux-mêmes.
Non, c'est ça.
Donc, tu sais, comment tu peux définir un phénomène aussi large, qui couvre aussi large, quand t'as pas des terminologues dans ton équipe qui s'occupent tant que ça des technologies de l'information, qui s'appellent encore des technologies de l'information d'ailleurs. Puis bref.
Mais si je peux rebondir sur ce que tu dis, puis peut-être que je vais être hors sujet, mais c'est que récemment, je me suis fâchée après des chroniqueurs à Radio-Canada parce que justement, il y avait eu une discussion autour d'un jeu vidéo, puis la discussion m'avait vraiment beaucoup fâchée parce que c'était pas des consommateurs, c'était pas des gens qui venaient de cette idée-là, et c'est des gens qui arrivaient dans un univers qu'ils ne connaissaient pas et qui le jugeaient énormément et qui le critiquaient et qui le prenaient avec leurs yeux de néophytes qui ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de regarder. Alors ils se disaient, ben moi j'ai mes lunettes de ci, de ça, et je comprends donc que le message se veut être celui-là. Mm-hmm. Mais pas du tout, tu viens de l'extérieur et récemment encore je parlais d'un de mes passe-temps qui est le jeu de rôle. Moi je fais du grandeur nature et je suis de plus en plus capable fièrement de le dire, mais c'est un univers qui est très jugé pour tout plein de raisons, qui est avec beaucoup de connotations, on a plein d'images, puis c'est correct, puis ça me dérange pas d'en parler puis de déconstruire l'image qu'il y a ça. Mais dimanche passé, j'en parlais avec quelqu'un puis il me disait, mais faut que t'avoues que c'est un peu comique ce que vous faites. Mm-hmm. Puis il faut que tu avoues que c'est un petit peu... Tu sais, c'est normal que les gens à l'extérieur trouvent ça un peu ridicule. Et c'est toute cette image-là, je trouve, du geek. Nous, on est là. Ouais. On est des... Vous êtes pour la plupart des intellectuels. On est tous un peu intellectuels. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a...
Oh, là, les
gros mots.
Oh, non! Les gens qui étudient de manière pointue un sujet. La plupart d'entre vous.
On a du fun, mais on va juste trop loin des fois. C'est ça, on va dire ça comme ça.
Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est des fois, je trouve que la culture geek, qu'est-ce qu'un geek? Ben, entre autres, c'est quelqu'un qui est en marge et qui,
la marge, parce que c'est rendu mainstream, le canal principal nous parle de geek tout le temps maintenant, là.
C'est vrai.
Geek, c'est peut-être devenu une forme de culture pop, tu sais,
c'est une sous-culture,
là où je nuancerais simplement ton point, c'est dire que c'est alimenté d'un lourd passé de marginalité.
Mm-hmm. Exactement.
Puis nos comportements sont informés de cette histoire-là. Le geekdom a son propre passé comme Never Again, nanana. Mm-hmm. Là, on n'est plus...
Mais il y a aussi le fait que la marge change d'endroit à partir de où qu'on se pose. Si on se pose, par exemple, quelqu'un d'une cinquantaine d'années qui n'a jamais fait de jeux de rôle, qui n'a jamais joué à des jeux vidéo, qui n'a jamais été initié à cet univers-là, ça, c'est en marge. Mais pour nous, ça nous semble mainstream, mais aussi, il y a aussi des cercles interprétatifs qui sont un peu plus objectifs. Ouais. Ouais, on voit un peu le mouvement de la marge vers le centre, mais en même temps, c'est pas la norme non plus.
L'échelle, ou le big picture, comme on aime bien dire, est dure à voir quand on est dans le milieu, ouais, en fait, parce que tout d'un coup, on réalise qu'on est servi. Partout où je me tourne, genre je peux obtenir un truc geek ou discuter de, et donc à un moment donné on sait plus si on est dans la marge ou on l'est pas.
Non, c'est ça.
Parce que tous mes besoins peuvent être comblés avec une courbure geek, là, finalement.
Mais aussi, aussitôt qu'on sort de notre cercle d'amis, de notre cercle de connaissances, de notre cercle d'études ou de travail, on se rend compte aussi qu'on est quelque part dans la marge pour certaines personnes, mm-hmm. et on est aussi dans le mainstream pour l'industrie, mm-hmm. parce que l'industrie s'adresse à nous en tant que geek, mais s'adresse aussi à mes parents en tant que pas geek. Mm. Donc c'est ça, ça dans dépend de où on se place.
Absolument. Ouais. Anecdote personnelle, tu sais, j'aime bien Star Wars dans la vie, comme ben du monde autour de cette table et en général. Puis je me rappelle d'avoir expliqué, c'était à l'Halloween, et j'expliquais à des collègues qui parlaient du meilleur costume, tu sais. Puis moi je disais que mon meilleur costume ever, c'était en Stormtrooper. C'est vraiment là que, et c'était avant Finn, donc mais puis c'est ça, donc là c'était mon meilleur costume à vie, puis là je m'étais fait le masque puis tout, j'avais acheté le saut là, mais je m'étais fait le masque moi-même et tout ça, puis là j'en parlais avec enthousiasme et tout, puis mes collègues, j'enseigne au primaire en fait. Mes collègues se sont tous tournés vers moi d'un air fasciné. J'ai fait « Oh boy! » Ça a été le clash, justement, ouais, ouais. Tu sais, de dire ça à ton cercle d'amis, c'est « Ah, oh, c'est super cool! » Parce que la plupart de mes amis baignent aussi dans ce milieu-là, tu sais. Mm-hmm. Comme un peu qu'est-ce que tu disais, Mégane, mais tu vois, dès que je suis sortie de ce milieu, puis que j'étais dans mon milieu de travail, c'est autre chose.
Ouais. Non, c'est ça, comme tu te dis, ton meilleur costume, c'est un Stormtrooper. Nous autres, on était « Ah, c'est cute, c'est ouais. fun! » Mais ouais. tes collègues de travail,
ouais, comprenais pas.
Elle comprenait complètement la réaction.
Totalement, totalement. T'sais.
Mais je vois, en fait, j'y pense depuis tantôt, là, puis il faut que ça sorte, là, parce que j'y pense depuis tantôt, mais on parle depuis tantôt de cercle, de cloisonnement, un peu tout ça. Je pense qu'en fait, la culture geek... y a aussi le gros problème de t'es geek ou tu l'es pas, mais je pense qu'en fait c'est vraiment sur une échelle là, tu sais, c'est ouais. le geek aujourd'hui avec l'accessibilité des médias d'information, internet, tout ça, c'est en fait la personne qui va plus loin que qu'est-ce qui saute d'en face tout de suite quand t'ouvres Facebook, oh my god, Marvel mm-hmm. Avengers et que je plate à la Candy Crush qui te saute d'en face, oh, je suis geek parce
jugement
que
de valeur.
Ouais, non, je sais vraiment, excuse, mais non mais blague à part, c'est que c'est au-delà justement le geek, peut-être que c'est vraiment la personne qui va fouiller un petit peu plus loin. Et cette idée de cloisonnement-là, il l'a quand même un peu, mais ça rend des gens un peu plus sur la défensive. En général, là, de plus en plus, on parlait des gens qui comprennent pas, qui abordent les jeux vidéo, le cinéma ou les films de super-héros, qui questionnent encore la pertinence des films de super-héros au cinéma. Et qui savent pas trop ce qu'ils en disent. Oui, Jean-Michel, tu me pointes du doigt.
Ben non, ben je te pointe pas du doigt, mais hein? c'est cette espèce de signe-là de comme...
Oui, c'est en pointant du doigt.
Non, c'est plus dans la réflexion, en fait, parce que, tu sais, cette question-là elle m'habite énormément. Puis un des constats auxquels je suis arrivé, puis moi, c'est comme ma définition personnelle, c'est cette idée-là qu'on est continuellement en train de plaquer la définition de geek sur des castes sociales, ouais. castes en guillemets radiophoniques, là, vraiment assez complexe, mais que véritablement le geek se mesure non pas dans qui l'est et qui l'est pas, mais plus dans la relation. Pour moi, c'est toujours un truc de relation ouais. à l'objet, tu sais.
Ouais.
C'est une hypocrisie, ou du moins peut-être un blind side, là, un point qu'on ne remarque pas, de croire que tu peux être totalement un geek de jeux vidéo, mais dès que tu t'adresses à un fan de sport, c'est pas un geek. Ouais.
Mais
un fan de football, c'est un geek de football. Il se met en costume, ouais. il descend au stade le dimanche, il connaît toutes les stats de son joueur. Fait que le geek n'est pas un épithète que tu peux plaquer sur une personne, c'est plus sur la relation que tu entretiens avec ton objet que ouais. t'aimes.
Puis même pour les geeks au sens traditionnel, que ce soit des geeks de jeux vidéo, de comics, etc., c'est difficile d'informatique, oui. c'est difficile à comprendre. Moi, c'est un processus constant à comprendre pourquoi il y a encore autant de lutteurs qui sont invités à chaque année au Comic-Con. Je ne juge pas, Jean-Michel, je sais que tu es passionné de
lutte. Parce que là, c'est un débat, là.
mais je ne comprends pas, puis c'est difficile.
Est-ce que je peux te dire quelque chose qui va paraître vraiment gros, beaucoup plus que peut-être que ça l'est?
Ouais, vas-y.
Je crois que une des façons aussi pourquoi des fois les gens ont de la misère avec le terme geek, ou du moins ont de la misère... Moi, personnellement, j'ai eu des passes dans ma vie où j'ai eu de la misère à entretenir mon geek en moi. Mm-hmm.
par le fait que le geek est un... et là, je veux pas embarquer parce que je sais que c'est ce que Guillaume va dire. Guillaume, dis ta phrase, puis après, je vais pouvoir embarquer.
Le geek est un consommateur.
Merci.
Le geek se définit beaucoup par le culte de l'objet.
Exactement.
En fait. Et sa relation, comme la relation qu'il a avec l'objet.
On y reviendra, mais oui.
Et c'est vrai ce que tu dis, et c'est vrai ce que vous dites. Alors, quelqu'un qui n'a pas d'argent... Et quelqu'un qui a de la... Non, mais c'est con.
Ouais.
Mais oui. Quelqu'un qui est comme, qui ne peut pas s'acheter ses comics, qui ne peut pas aller au cinéma, qui ne peut pas consommer ce qu'il fait triper. Puis de plus en plus, moi, par exemple, j'adore Donjons et Dragons, mais je me suis butée à des portes où j'étais comme, mais non, je ne peux pas m'acheter ce set de dés. Je n'ai pas l'argent pour s'acheter ce set de dés. Peux-tu me passer tes dés? Peux-tu me passer tes livres? Peux-tu me hacker le livre? Parce que je n'ai pas cet argent-là. Ouais. Et je crois que le geek, en général, peut, si c'est un geek qui va aller chercher ce qu'il veut, comme moi, par exemple, j'ai trouvé des façons de je suis allée beaucoup sur des sites, les 100 meilleurs jeux, que tu peux downloader gratuitement, intéressants, et tout ça. Fait que je me suis dit, OK, je vais continuer à consommer, mais en même temps, il faut que tu travailles, il faut que tu entretiennes tes choses. Donc, à un moment donné, c'est à quel point ta passion, peu importe c'est laquelle, comment tu peux t'y investir. Puis ça, c'est des fois des limites où est-ce que le geek est un consommateur et qu'est-ce que tu fais quand tu ne peux plus consommer? Puis quand t'es dans, vu que c'est dans le regard des autres, ouais. Qu'on a dit tout à l'heure, là, dans ma perspective à moi, un geek, c'est quelqu'un qui va connaître sur le bout de ses doigts ce lore-là, c'est quelqu'un qui va avoir été voir ça. Tu sais, moi, j'avais pas d'argent pour aller voir Civil Wars.
Ouais.
J'ai pas vu Civil Wars. Est-ce que ça fait de moi une moins bonne geek ou pas? Puis je dis pas, je veux pas la réponse. Non, mais peu importe. C'est pas ça la question, mais c'est ce qui va arriver.
Mais ça revient avec le fait tout à l'heure que, justement, l'accessibilité à tout ce qui est Internet et compagnie facilite les gens à devenir geek.
C'est vrai.
On parle de Donjons & Dragons. Présentement, parenthèse personnelle, je suis en train de
la
faire
la police va débarquer chez toi.
Moi, je sais, c'est pas vrai. Ils feront ce qu'ils voudront, Wizards of the Coast. Mais je veux dire, je suis en train de faire une campagne, puis au lieu d'avoir acheté les trois livres à 45$ chaque, je les ai téléchargés, je les ai imprimés en PDF.
Oui.
Merci, bonsoir, je fais une campagne. J'ai pas dépensé des millions. Civil War, si t'as pas l'argent, que t'es vraiment motivé à le regarder, ben tu le downloads, tu pirates avec quelqu'un qui le filme avec une caméra.
Pour
croche,
répondre à l'idée du geek, la relation à l'objet, oui, mais il y a aussi l'idée de relation. Vous parlez de geek dans une société capitaliste, je sonne un peu plus communiste, mais je pense que le geek aussi, c'est sa relation à une communauté. Donc, tu parlais, t'as pas d'argent pour t'entendre des dés, mais il y a quelqu'un qui va t'en passer. T'as pas d'argent pour aller voir Civil War, mais quelqu'un peut en parler avec toi. Peut te passer sa bande dessinée de Civil War, peut te passer une copie de son DVD de tel film que t'as pas vu.
C'est vrai.
C'est aussi toute une histoire de communauté et d'échange dans la communauté. Donc, on ne fait pas juste regarder et consommer l'objet, mais on réfléchit à partir de lui. On invente des théories de fans pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans le prochain film, dans la prochaine BD, ou qu'est-ce que ça, est-ce que ça a un rapport avec telle autre affaire très vieux. Puis il y a toute cette idée d'échange-là qui est, je pense, qui est donc, aussi importante, mais même plus importante que l'objet en soi.
C'est vrai. Donc, un geek aime se rassembler. Oui. Et donc, y a-t-il quelque chose de pas plus démocratique que Pop en Stock dans cette question-là? Non, mais c'est gratuit. On parle de ces choses-là.
Oui,
c'est accessible. Absolument.
Oui, puis c'est aussi... le projet existe à cause de la dynamique. C'est que, comme Megan l'explique, c'est vraiment une volonté de regarder un objet tellement longtemps que d'être capable de dire « Ouais, mais il y avait ça, puis quand il est mauve, c'est parce que ça, puis Samuel Jackson. »
À un point tel.
Ouais.
C'est
la sous-spécialisation.
C'est l'esprit qu'on avait quand on était enfant. Quand on se faisait proposer, mettons, un cartoon le samedi matin où il y avait tellement de règles nouvelles qui nous étaient balancées dans la gueule en même temps, mais on les apprenait parce que on était à l'époque éponge. On prenait, puis ça forge l'esprit d'une telle manière que on finit par vouloir voir ces règles-là un peu éparpillées dans d'autres choses. Puis quand on les voit, on les prend, on les absorbe et on les comprend immédiatement. Et on aime ça. Je me souviens même plus, je m'en vais avec ça, mais...
C'est intéressant parce que
cette manière-là d'aborder l'objet, on a été entraîné, j'avancerais.
Oui, exactement, c'est ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, c'est pas une affaire de l'Internet est arrivé, puis c'est pour ça que, tu sais, il y a un précédent à ça.
Et le précédent, c'est Star Wars.
Probablement.
C'est la base, la proto-base, parce que Star Wars a des jouets. Et j'en arrive exactement à ce que je voulais dire depuis tantôt. Le culte de l'objet, c'est que c'est ça, c'est qu'on est d'habitude, tu vois, mettons, je sais pas, tu lis un livre, tu vois un film. C'est, mettons, parlons surtout du film, parce que c'est un bon exemple, dans les années 60, 70 et tout ça, parce que des geeks, il y en a toujours eu, là, des geeks de musique, geeks de ci, geeks de ça, là, mais geeks de culture populaire, de trucs plus niches comme science-fiction et tout, ça a vraiment pris sa forme avec Star Wars, je pense, parce que tout d'un coup, t'as un film, tu vas l'écouter, tu retournes chez toi, puis that's it, le film était sur l'écran, il sera jamais, il est pas à TV, il est pas en vidéocassette parce qu'on n'a pas inventé ça encore, il y a rien. Mm-hmm. Tu l'as consommé, il est dans ta tête, puis c'est tout. Maintenant, tu peux aller au magasin, acheter une figurine qui représente quelque chose d'une partie du film, tu le ramènes chez toi. Puis tu l'as. T'as pas le film, mais t'as ce qui reste de l'objet et une manifestation en 3D devant toi, même si bon, la première génération des figurines était un peu stiff, mais l'idée c'est que l'objet est sorti de l'écran. Et je pense par exemple à toute cette sous-culture de figurines de résine qui existe chez les super-héros, les dessins animés japonais. On peut acheter des représentations trois-dimensionnelles réelles d'un personnage de fiction qui n'existe que sur un papier. Et ça, c'est fascinant à penser, de se dire que l'objet, il est vrai, avec des paramètres bien limités, mais il est vrai devant toi, là, le personnage existe, tout ça. Et là, arrive avec les costumadiers et tout, là, on prend, oui.
Non, finis ton idée.
OK. Non, mais c'est parce que je peux aller longtemps avec ça. Parce que...
Non, vas-y.
OK. La politesse.
C'est que j'esticule beaucoup.
C'est que là, arrive après ça, ben, toute l'escalade des années 70, des années 80, les cartoons, dessins animés, où ça a peut-être moins paru au Québec parce qu'on n'avait pas le droit de faire des publicités qui s'adressaient à des enfants. Ouais. Mais aux États-Unis, il y avait entièrement le droit et il y avait surtout la volonté de le faire.
Ouais.
Donc, on a été bombardés de ça. Et là, c'est des objets qu'on... Soit on était assez chanceux pour les avoir, ou soit surtout on ne les avait pas, ces objets-là, mais ils existaient, on nous les montrait et on voulait les avoir. Et donc là arrive l'époque où finalement on est des adultes de 20, 25, 30, 35 ans, on a une carte de crédit, on va s'acheter ces hosties de jouets.
Montre-moi ça.
Optimus Prime, c'est génération 1, je le veux, je l'achète.
Et je crois que c'est là en fait que vient toute la logique en fait de comme posséder ces objets-là, les porter. Nous en plus, je vois autour de la table, nous sommes tatoués nos fandoms préférés, donc
Non,
ben, en tout cas bref, je le vois sur vos bras. Moi je connais mes tatous aussi. Il y a une notion de fierté, en fait. C'est qu'on s'approprie cette culture-là, cet univers-là. On se dit, elle nous représente. Elle nous a définis. Et on se revendique, en fait, des valeurs souvent qu'elle va propager. Ou juste pour se rappeler, justement, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, par se rappeler. Puis à un moment donné, on va atteindre des nouveaux objectifs où est-ce que justement, on va aller le porter sur nos vêtements, le porter sur notre peau et de se dire je suis fière d'être geek de ça.
C'est un badge qu'on porte.
Ben c'est exactement. Ça, dans le fond, c'est de te déplacer constamment avec l'objet. Ben c'est ça.
Exactement.
De déplacer.
J'ai des écussons.
Voilà. Oui. C'est de te déplacer constamment avec pas l'identité, mais c'est ça, avec
ça vient, ben pas une société secrète, elle est très très mal gérée, c'est l'état pour être secrète, mais je veux dire, à un moment donné, tu croises quelqu'un dans la rue, et il y a une époque, début 2000, où, mettons justement, les détox et tout, nous vendaient des t-shirts de Nirvana, faux vintage, puis les petits culs avaient jamais écouté ça, ils savaient même pas c'était quoi, là. Mais allez, j'ai eu une discussion avec un jeune, c'était comme, hey, cool, j'en ai de AC/DC, quoi? OK, cool. Mais
j'étais une petite cul qui s'achetait du linge chez Detox, puis je savais ce que je portais, là.
Mais,
faut pas généraliser.
Non, en effet, mais il y a une période où on a commencé à nous vendre ça comme at large, puis les gens connaissaient pas, mais maintenant, je pense que ça a été rattrapé. Mm-hmm. Et maintenant, si je vois quelqu'un avec un chandail à l'effigie de Doctor Who ou quelque chose, et tu sais, plus subtil la référence, le mieux c'est.
Exactement.
Si tu veux avoir un t-shirt où t'as Matt Smith, t'as juste un t-shirt avec la forme générale peut-être du TARDIS, t'es comme, ah ah!
Je pense aux t-shirts de Doctorat, là, les t-shirts de Mathieu Arsenault. J'en ai quelques-uns chez nous, dont mon préféré étant Lord Conan le Barbare.
Ouais.
Que j'aime vraiment beaucoup, mais tu sais, qu'à chaque fois que quelqu'un comprend la joke, je fais OK, non seulement t'es vraiment geek littéraire québécoise à fond, mais tu sais c'est quoi Conan le Barbare, toi tu es cool. Mais tu sais, c'est le côté, effectivement, qu'est-ce que tu disais, tu sais, de pouvoir reconnaître la personne par rapport à ce qu'elle porte. Louis Ferdinand Céline Dion pour le plus connu, là.
Il n'a rien à prendre à la canne.
Mais
c'est
George Lucas.
Écoute, ouais. Vraiment, mais je l'ai, ce macaron-là. Je l'aime beaucoup, ça, en tout cas, bref.
Ça fait de la pub.
Total. Mathieu, j'espère que tu nous remercies.
No shame, no shame.
Mais c'est drôle parce que je trouve qu'il y a le renvers de la médaille de cette discussion-là, c'est parce que je suis coupable d'avoir fait ça à quelqu'un, puis éternellement, je vois, tu sais, Joël, je m'excuse, je suis vraiment désolé, Joël, d'avoir fait ça. J'ai fait ça il y a 10 ans. Il est rentré avec un T-shirt de Barry Allen, je pense, puis j'y ai dit... c'est qui que t'as sur ton t-shirt? Puis il a dit c'est Flash. Puis j'ai dit c'est lequel? Puis il a pas été capable de répondre. Puis il y a eu un gros jugement.
Oh, shame on you!
Ça, c'est chien!
Non, mais Jimbo. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Puis je m'excuse. Je viens de le faire. Puis je vais le refaire. Tu sais, je voulais tout remercier tantôt. Ouais. Puis là, je vais l'autre bord. Puis je m'excuse à Joël. Il y a ça, tu sais. C'est comme. C'est vrai que c'est le fun quand il y a quelqu'un qui reconnaît ta référence littéraire ultra cryptique sur ton t-shirt. Mais qu'est-ce
vous
que
tu pensais que c'est une émission de Pop en Stock, mais en fait, c'est le Jean-Michel Bertillon Rédemption. Ah.
C'est l'intervention, Jean-Michel.
Allez, sortez vos lettres là.
Tu veux se racheter tout ça.
Mais ça revient aussi à qu'est-ce que on disait pas mal plus avant, c'est dans la définition du gay qu'il y a quand même des tensions dans les communautés entre les vrais et les faux gays.
Ben oui, ça, je veux désamorcer ça.
On essaie de désamorcer ça à l'université ou peu importe, à Pop-en-Stock, mais ça existe quand même, puis il y a déjà des tensions de même, puis on essaie, c'est sûr qu'on essaie de désamorcer ça, puis de déconstruire ça, mais...
On a pas le choix parce que ces choses-là existent. Je pense que ces gens-là se définissent comme ça. Et par là, faut vraiment pas sous-estimer ce que je dis là. C'est-à-dire, définition de leur être le plus profond. Ils sont geeks. Ils aiment ces objets-là. Ils aiment ces objets de culture-là. Pas seulement des objets physiques, mais des... ils aiment la série, ils aiment ci, ils aiment ça. Leur morale, ils l'ont fondée avec les PSA de G.I. Joe. Puis ils arrivent à la une année où, quand tu connais moins... son truc à lui, il va se sentir insulté, il va se sentir comme tu me comprends pas.
Parce qu'il va connaître plus de choses que toi.
Ça devient des, ça
je
devient
pense des... que, je pense que Jean-Michel, il trouve qu'on est en train de tout spoiler notre prochaine émission qui va parler de ça.
Non, en fait, beaucoup plus sur le... Ben, non, parce que je considère jusqu'à présent qu'on a été très optimiste. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent était très constructif. Merci, Elisabeth, de mentionner qu'on va faire le dark side plus tard, puis on va parler du corrosif, du destructif, de l'insultant, de l'insurgent, de tout. On va le faire.
Mais reste que dans la définition du geek, ça rentre en jeu quand même.
Mm-hmm. Oui.
Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup le fait qu'il y a quand même, chez certaines personnes geeks, il y a quand même une petite notion de mentor. T'sais. Je parlais de Donjons et Dragons, moi, c'est mon père qui m'a appris à jouer à Donjons et Dragons. Puis je trouve que quand la communauté, quand son light side, des fois, quand elle est belle et elle est généreuse, elle se situe en mentor vers ses néophytes et ne va pas les traiter de nous, mais va les accueillir et va dire « J'ai envie de partager avec toi mes connaissances. » Puis moi, personnellement, j'adore regarder ces objets-là, j'adore les consommer, j'adore les regarder, mais j'aime encore plus en parler. Puis
je pense aux grandeurs nature. Tu parlais des grandeurs nature tout à l'heure. Le grandeur nature aussi, il y a beaucoup de ça. Tu sais, j'ai participé à très peu de grandeurs nature dans la vie. En fait, un. Mais j'ai énormément d'amis qui en font depuis plusieurs années.
J'en fais depuis 10 ans. Donc,
des amis qui en font depuis 12, 15 ans, j'en ai plusieurs. Uh-huh. Mais c'est ça, c'est le côté, tout l'échange, le partage, le « ouais, ben là, pour tel personnage, tu pourrais faire ça », puis qu'ils supportent entre eux, tu sais,
Est-ce que cette figure-là n'est-elle pas nécessaire parce que on part avec l'idée qu'il y a une honte, on parlait tantôt « no shame », tu le disais à la blague, mais quand même, il y a cette aura de peut-être honte à être geek ou d'avoir des intérêts enfantin avec très grands guillemets là.
Et donc honte d'être geek ou honte de vouloir partager ce fandom là avec quelqu'un.
Ça. Et donc quand on rencontre une figure de mentor, finalement quelqu'un qui est à l'aise dans cette identité là, on s'en sert comme ancrage pour nous aller plus loin dans notre propre geekitude finalement.
Mais c'est là où ça devient, tu sais, tout le méta sujet du geek pour moi est très intéressant parce que on ne peut pas faire une analyse sociologique de l'humanité. C'est assez compliqué, c'est un échantillonnage assez crissement large.
On peut pas faire ça.
C'est ça, mais on peut reproduire, ou du moins limiter. On va limiter notre échantillonnage, puis on va regarder dans l'Erlenmeyer, si on peut dire dans le Bottle City of Kandor Geek, puis faire... Et regarder les dynamiques internes de cette culture-là, puis voir qu'essentiellement, l'échantillonnage est plus petit, mais les dynamiques sont assez similaires. Mm-hmm. Puis ça, c'est toujours très intéressant parce que on peut, à la manière de l'observant, faire des constats ou faire des hypothèses ou faire des avancées. T'sais, on est présentement en train de on ne parle plus de geek, là, on est en train de parler de l'importance du mentorat dans la vie, puis comment est-ce qu'on a pratiquement plus de mentorat à l'extérieur de la société geek. Mm. Est-ce qu'on est attiré envers une figure de mentor ou d'initié parce que dans notre sous-culture, on a besoin de ça, ou parce que c'est quelque chose qui est fondamentalement humain? T'sais, c'est-tu le fun d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler de Heidegger, ou c'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler de n'importe quoi? Là, Heidegger, c'est un très mauvais exemple. Là. Je voulais comme utiliser...
Ben, il y a peut-être des gens qui trippent parler d'Heidegger.
Ouais, non, mais c'est ça l'exemple traditionnel, ouais. L'exemple ancestral de mentorat. Mais tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui veut autant parler de Satoshi Kon que toi, ben là, t'es juste comme connecté à la source.
Peut-être parce que la culture geek fonctionne par univers. Mm-hmm. Ou pluriel, ouais. Genre. Et donc, quand tu rentres dans un univers complet, t'as besoin de te faire donner les codes et les clés très rapidement, mm-hmm. pour être à l'aise là-dedans. Donc, l'idée d'un mentor est vraiment importante. Et c'est un élément qui... C'est un ressort narratif qui est utilisé à plein dans tout ce qu'on consomme en termes de geek. Pensons à Ben Kenobi, pensons à...
Ben oui.
La figure du mentor est partout dans ce qu'on regarde. Et on parlait beaucoup de cloisons, de communautés, ouais. fermées, puis qui discutent vraiment juste en vase un peu clos. Mm-hmm. Je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait que justement on s'enferme dans des univers, puis là on est tous un peu des univers mélangés, mais il faut que mes univers parlent à tes univers pour qu'on se comprenne.
Mais il y a aussi le fait que les univers sont tellement complexes, oui. que je suis en train justement de préparer ma présentation pour le colloque d'en fin de semaine, colloque Popenstock international.
Hey,
donc je vous invite à venir.
Le plus grand rassemblement de recherche sur la culture populaire dans la francophonie, j'en reviens pas.
Oui. Oui, donc c'est ça, puis je suis en train de préparer ma présentation, pardon, puis le mot qui revient le plus souvent quand je veux essayer d'expliquer mon objet, je vais faire une présentation sur Doctor Who, donc je build du hype un peu, donc c'est vraiment le terme d'initiation, donc les initiés et les non-initiés, pour participer, pour échanger, pour avoir des discussions sur l'univers de Doctor Who, faut être initié, parce que sinon les gens comprennent absolument rien, mais ils peuvent justement faire des équivalences, par exemple, dans leur fandom propre, mais ils pourront pas dire... ils pourront pas parler de Dalek ou de Weeping Angels ou de... Ils vont juste pas savoir c'est quoi. Donc c'est ça, c'est fermé, c'est équivalent, mais c'est aussi très fermé, puis il faut s'initier à l'univers. Je pense que le mentor, c'est ça qui fait un peu, il nous initie à des univers, il nous encourage à aller dans certaines directions qui vont... faciliter l'initiation.
Et là, le mentor est soit une personne, soit l'œuvre en tant que telle.
Oui. Et en fait, on parlait tout à l'heure de démocratisation de l'information par rapport à tout ça. Puis je fais un lien, mettons, avec l'Internet. Maintenant, c'est merveilleux. Tu sais, quand j'avais 9 ans, puis j'ai commencé à lire Dune. Dans Dune, il y avait un lexique à la fin, oui. avec les mots, parce qu'il t'expliquait pas au fur et à mesure que quand tu lisais la première fois Arrakis, quand tu lisais pour la première fois Bene Gesserit, c'était pas expliqué. Il fallait que t'ailles lire le lexique qui accompagnait l'œuvre. Maintenant, si je commence, par exemple, mettons, je vais voir un film de Marvel, puis j'ai pas lu les comics, je peux aller taper le nom d'un super-héros que j'ai vu, puis apprendre toute de sa vie, puis de faire des liens avec ce que l'œuvre a voulu me dire, tu sais.
Ah, puis aussi, l'Internet est bon pour ça, parce que chaque fandom a créé son wiki.
Oui,
donc, tout à fait. Oui. Mais tu sais, je pensais, tu sais, tu parlais des lexiques à la fin. J'étais allée il y a un mois et demi, au Congrès Boréal.
Oui.
Où t'étais, j'ai dit ton nom. Mais regarde, je te pointe, non. J'ai vu ton nom passer. Mais en fait, il y avait une table ronde. Et cette table ronde-là, c'était sur justement la cartographie des pays imaginaires auxquels j'ai participé comme personne panéliste. Plug. Mais mais en fait, c'est surtout le but de la chose, c'était en fait les cartes étaient à la fin, puis tu avais aussi le lexique à la fin. Mm-hmm. Puis une des questions qui était posée par l'animatrice du panel, c'était justement est-ce que c'est tout aussi nécessaire maintenant de mettre ce genre de choses-là pour accéder à un univers littéraire que ça l'était avant les technologies, tu sais. Mm-hmm. Mettons si Elle donnait l'exemple d'Elisabeth von Herburg, l'auteur de science-fiction québécoise, qui, bon, avait à la fin de sa série une carte et tout mm-hmm. ça, puis elle expliquait les termes. Est-ce que maintenant, est-ce que c'est tout aussi nécessaire? Si elle rééditait la chose, est-ce que ça pourrait être sur Internet, par exemple? Mm-hmm. Puis elle avait l'air de pas trop savoir quoi répondre à ça, c'était très drôle. Mais tout ça pour dire que ces enjeux-là, cette intégration-là peut effectivement être posée avec l'arrivée des internets.
Mais toute la question des wikis est vraiment... Je pense que j'ai envie d'ouvrir cette porte-là pour qu'on puisse en jaser. Ouais. Il y a cette envie de devenir un historien immédiat de ce qu'on consomme.
C'est pour fou. Le meilleur et pour le pire, en fait.
Ah oui,
fait
oui.
Vraiment, il y a des gros problèmes. Tu sais, c'est comme Megan qui apporte l'exemple de Doctor Who. Moi, je sens un retard dans Doctor Who que je suis en train d'essayer de combler, mais que je...
C'est à cause de moi puis Sarah qu'on n'arrête pas de faire de la pression.
T'es gavé.
Possiblement. Je ne veux pas en parler tant et aussi longtemps que je ne serai pas rendu à votre niveau. Tu sais, c'est comme je vais me mettre en isolation. Étrangement, c'est des mots qu'on utilise beaucoup durant l'émission. Mais tu sais, je vais écouter les épisodes, puis après ça, je vais comme sortir de mon tombeau, comme le Christ 4 jours plus tard.
Je vais comme,
all right, I got it. Bon, envoyez-moi les noms, là. OK, oui, non, oui, il y avait ça, oui, c'est vrai. Non, tu sais, comme avec le retard, ça va être le pack du geek.
40 jours pour écouter ta
Oui. Un intéressant challenge.
C'est très faisable.
Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est comme... Là, je sais rien, puis je ne veux pas qu'on me parle tant que je ne sais pas tout.
Ouais.
Tu sais, c'est vraiment une espèce de... Ça, c'est peut-être moi, là. Fondamentalement, c'est peut-être j'y pense, je suis comme, ouais, peut-être que c'est juste moi, cette affaire-là.
Ben, tu vois, ma relation avec Doctor Who, en fait, c'est le contraire. Moi, j'ai écouté que la saison 1 et demi, à peu près.
Laquelle saison? Non, je ne ferai pas ça.
2006.
Ouais.
Okay.
Il peut pas vraiment écouter la première saison 1, il manque plein d'épisodes.
J'avais écouté.
Mais c'est ça, mais tu sais, j'ai écouté cette saison-là et on m'a parlé, j'aime bien m'asseoir avec des fans, puis l'épisode des Weeping Angels, je l'ai jamais vu, là. Je le connais par cœur, tu sais, je veux dire, tout le monde me l'a raconté des milliers de fois, m'a expliqué pourquoi, je dis pas ce qui se passe de temps, mais tout le monde m'a expliqué pourquoi c'est important, pourquoi il est spécial, qu'est-ce qu'il fait ici, quel prix il a gagné, écoute, je sais tout sur cet épisode-là, mais je l'ai jamais vu, mais c'est ça, donc une différence aussi de se dire, en tant que geek, pour revenir à notre sujet, on peut se dire que l'intérêt de ces univers-là peut faire que on a autour de ces fandoms-là, on a une curiosité insatiable, mais qu'on reste aussi avec nos propres compétences, nos propres connaissances. Moi, je peux te parler de Star Wars pendant 2 heures, mm-hmm. mais je peux t'écouter me parler de Doctor Who pendant 2 heures. T'sais.
J'allais rebondir sur ce que tu disais sur le fait que tu connais l'épisode des Weeping Angels sans l'avoir vu, mais tu sais, c'est tout le phénomène aussi dans le fond de connaître plein de phénomènes geeks, mais sans nécessairement s'être concentré là-dessus. Tu sais, le Star Wars, par exemple, je pense que tout le monde sait les personnages de Star Wars, grosso modo, puis qu'est-ce qui se passe.
Mais connais-tu Plo Koon?
Exactement! C'est ça. T'as tout compris! Ouais. Mais c'est exactement ça, tu sais, c'est un peu, tu sais, c'est une sous-culture pop.
C'est fort ton truc, parce que tout le monde en studio a comme...
Bon, ben, je vais aller me faire enlever mon tatou de Star Wars.
Plo Koon
siège au Conseil des Jedi. C'est le Jedi avec les... il est comme brun et jaune au visage.
Avec la tête de con?
Des grands yeux... Non. Des grands yeux noirs, puis oui. En tout cas, voilà, c'est...
Wow!
OK. Mais...
Ils ont-tu nommé le E.T. pendant qu'on est sur cette question-là? Oui. Ils ont-tu nommé le E.T. dans le conseil?
Ah oui, ils en ont plus qu'un.
Mais c'est ça, mais est-ce qu'ils ont des noms ou c'est des E.T.?
Pourquoi ça serait des E.T.?
Exactement.
On parle de l'épisode 2, tout le monde.
Non, mais l'épisode 2, il y a un des je sais pas, là, un des habitacles, ou peu importe, dans le conseil, qu'il y a des E.T. de E.T. de Steven Spielberg, mais ils n'ont jamais nommé la race.
Mais c'est ça, mais c'est là qu'on a... Et d'où vient la théorie, en fait, que E.T. est un Jedi, c'est pourquoi il peut déplacer des choses, parce qu'il a la force.
C'est pour ça qu'il est capable de faire lever le vélo à la fin. C'est ça, c'est The Force, c'est les midi-chloriens. Non, mais c'est que...
Non, ce ne sont pas...
Pas moi, pas ces midi-chloriens.
Mais tu sais, je peux comprendre que Elliot n'est pas capable de nommer E.T. dans le film de Spielberg, parce qu'il y a juste un exemplaire de la race. Mais là, il y a plein de races extraterrestres. Il devrait pouvoir dire, est-ce que les deux représentants de la race...
C'était l'opportunité idéale. C'est génial parce que on vient d'avoir un genre de deux minutes exactement de ce dont on parle depuis tantôt. de cette espèce de désir d'encyclopédie, de tout savoir, puis les raccoins qu'on n'a pas comblés. Et il y en a plein. Je veux dire, créer un univers, puis essayer de combler tous les coins, c'est impossible.
Il y a aussi la tendance, je m'en allais dans mon vocabulaire académique. Donc, la tendance, justement, de faire des opérations transfictionnelles entre les univers. Donc, de croiser E.T. de Steven Spielberg avec Star Wars. Il y a juste nous, parce qu'on considère ces mondes-là comme tellement complets. On essaie d'explorer tous les raccoins de chaque monde. Nécessairement, la fiction restera toujours incomplète. Mais on veut compléter justement notre savoir sur ces mondes-là.
On
un peu
ça,
comme
ouais.
des historiens vont rechercher.
Surtout quand ces univers-là s'interpénètrent, en fait, parce que tout d'un coup, on a l'idée que peut-être ce monde-là, il est unifié et il existe, puis toutes nos fantaisies... Oui. On place en même temps. Il y a une série de bandes dessinées Transformers X-Files. Là, je veux juste t'sais.
Transformers G.I. Joe.
Ouais, mais ça, c'est plus cohérent, ça. Ouais. Quand Star Trek et X-Men sont rencontrés.
E-Man, G.I. Joe en jeu vidéo récemment.
Ah, wow.
Parenthèse.
Oui, c'est vrai. Ouais. Ben oui, Toy Soldiers, oui.
Ouais. Mais c'est drôle parce que qu'est-ce que tu t'amènes? Je pense qu'il y a comme une question qui peut être droppée en plein milieu de la pièce qui va peut-être tuer l'émission ou pas. Non, mais c'est vrai.
On fera des reversements pendant 40 minutes.
Cet investissement-là dans les mondes imaginaires, c'est-tu par déception de la réalité contemporaine? C'est-tu comme on préfère vivre, comme remplir les coins, c'est-tu plus satisfaisant?
Ça dépend, parce que je pense quand même que ces œuvres-là, c'est des œuvres, donc ils ont des importances cathartiques, tu sais, en partant. Donc, c'est du moment où est-ce que des fois tu vois des films qui vont aller excessivement mal, tu vas voir des gens mourir, ou tu vas vivre la tragédie, en fait, si on regarde, mettons, parce qu'on parlait de films de X-Men il y a deux secondes, là. Mais est-ce que je crois que ce que tu dis, en fait, va correspondre à un certain profil de geek.
Ouais.
Oui, il y a des gens, et on parlait de grandeur nature, il y a des gens qui trouvent que leur personnage dans le jeu est plus important que leur vraie vie. J'en ai rencontré.
C'est ça, exactement.
Ces gens-là existent. Il y a des gens pour qui la filiation à leur fandom est plus importante que le reste.
Ben oui.
Et c'est vrai.
Plein.
Et est-ce que ça en fait des plus ou moins geeks? Je ne sais pas. Je pense pas que c'est ça la question, mais...
Non.
Est-ce que c'est ça la question?
Est-ce que c'est la vie de tous les jours qui est plus dépressive, plus désintéressante, ou c'est les univers de la fiction qui sont ultra excités et excitants? Ouais.
Non, mais il y a aussi la question, je pense que c'est la question qu'on s'est tous posée un moment donné, c'est pourquoi on se contenterait juste de notre vie de tous les jours? Pourquoi on pourrait pas explorer d'autres univers? On vit notre vie, on travaille, on a des amis, on a des relations amoureuses pour certains, puis... On a aussi notre univers de fandom. On lit des wikis sur Internet. On explore, on joue, on écoute.
Mais c'est ça, c'est que plus on habite ces univers-là, plus on comprend qu'ils sont rigoureux. En tout cas, à cause de cette volonté de faire de l'encyclopédie, il y a un effet de se dire cet univers-là, il y a de plus en plus de règlements définis dans cet univers-là, donc il est possible. Donc je comprends ce que ça serait de vivre là-dedans.
Ben c'est probablement la cohérence de la chose, vu que c'est un monde.
Elle est exigée.
C'est ça. C'est que la cohérence est exigée, puis le côté englobant, puis qui te happe aussi d'un univers, étant donné qu'il est hyper présent, c'est pas nécessairement étonnant que des gens se laissent justement, je parlais d'happer, de se laisser happer là-dessus, puis se laissent vraiment englober là-dessus carrément, parce que c'est un monde qui est tellement... Ce sont des univers qui sont tellement cohérents que, tu sais, la tentation est forte de le faire pareil.
Et ça me fait penser, en fait, je vais rebondir, on a parlé de Star Wars, en fait, puis on a parlé de que Star Wars serait peut-être un truc à l'origine de tout ça, puis j'avais parlé avec Jean-Michel durant notre émission sur le canon de Star Wars. J'avais parlé que pour moi, la nouvelle volonté de Star Wars de devenir un univers cohérent, c'est, en fait, c'est la preuve de sa démystification. que j'avais dit que l'univers de Star Wars était avant un univers qui avait d'autres codes, où est-ce que où tout d'un coup il y avait des choses qui n'étaient pas expliquées et que c'était comme plus ou moins grave, où il y avait une volonté un peu manichéenne, on a les bons, on a les méchants, il y a quelque chose de, tu sais, d'un peu plus d'un peu moins rigoureux, justement. Puis là c'est tout le contraire, on est devant des canons immense. Et
mais il y a aussi le fait, je pense que ça revient à la question de la complétude de la fiction, plus l'œuvre à la base est, justement, il y a des flous, il y a des blancs, il y a quelque chose de pas répondu, mais ça pique notre curiosité. Ouais. Puis en tant que fan, vu que ce sont des univers dont les faits, on dirait qu'ils sont complets, on dirait qu'ils sont vrais, on dirait qu'il y a un savoir à aller chercher dans un univers alternatif.
Ben à ce moment-là, on peut blâmer Star Trek. Dans le sens que, genre, Star Trek est clairement le premier exemple, je pense, dans la culture populaire de... un univers, tu sais, qui donne pas toutes les réponses, mais quand tu vas poser la question au créateur, ils vont te répondre. Oui.
Mais il y a le fait aussi que Star Wars, justement, vu qu'il y a eu des flous, il y a les créateurs qui en répondent, mais il y a aussi les fans qui ont tenté de répondre à certaines questions. Et les fans,
la participation, participatory culture. C'est drôle parce que c'est un exemple auquel je référais récemment au Geek ont raison, cette idée-là qu'il y a pas assez de flou dans Avatar.
Oui, je t'ai entendu.
C'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas de fanfiction d'Avatar, il n'y a pas de cosplay d'Avatar, c'est le plus gros produit science-fictionnel de l'histoire de la science-fiction.
Personne peut citer une phrase d'Avatar, personne...
Je suis pas capable d'en nommer trois.
Je suis capable d'en citer une de Pocahontas, c'est pareil.
C'est ça, tu sais.
C'est la même, c'est le même scénario. C'est ça.
Mais comme, parce que l'œuvre a pas réussi son pari d'être assez poreuse ou d'assez encourageante. Tu sais, je pense que si la nouvelle mouture de Star Wars réussit à être totalement cohérente, ben il va y avoir un désintéressement majoritaire des fans parce qu'ils peut-être pourront pas si... remplir.
Mais imagine si Avatar avait été une trilogie.
Ben c'est ce qu'on
vient. Mais tu comprends, mais si à l'époque ça avait été présenté comme une trilogie, s'il y avait eu de l'attente, s'il y avait eu, parce que c'est effectivement une histoire qui commence, qui se termine, qui a une conclusion.
Ouais.
Puis comme tu dis, mais si ça avait été ça finissait sur un cliffhanger, sur...
ça finissait comme Force Awakens, que t'es comme, c'est qui le papa? Comment ça se fait que sa main est là? Qui sait pourquoi la barbe, le robot, cette affaire-là?
Exactement. Mais c'est ça. Et c'est ça, parce que là, t'as l'intérêt de ton geek en toi qui veut créer des théories, qui veut en parler, qui veut... Il y a rien à dire sur Avatar. Avatar, c'est ça. What you see is what you get.
Ouais. Il n'y a pas de plus de degrés nécessairement que... là-dedans.
Exactement.
Où est-ce que, dans le fond, si on prend Star Wars, par exemple, il y a plein de liens à faire avec des trucs canoniques de contes ou de whatever, tandis que dans le cas d'Avatar, c'est effectivement qu'est-ce que tu disais. Ce que tu vois, c'est ce que tu as. Il n'y a pas de deuxième degré, il n'y a pas de degré d'analyse nécessairement qui serait plus haut que ça, ce qui fait que probablement que ça n'a pas pogné.
Le travail est déjà fait dans Star Wars Force Awakens. Je pense à TR-8R, en fait. Traitor.
Traitor. Qui est le mime qu'il y a eu
c'est
pendant...
C'est un Stormtrooper avec un...
un bâton
avec un vibro lame en fait, puis qui peut donc résister à l'assaut d'un lightsaber
quand il n'y a plus de lightsaber dans l'univers, mais ça c'est une autre question.
Et puis c'est ça, mais donc il était tellement comme badass, mais c'est un personnage qui avait été écrit dans le scénario un peu comme à la jetée, tu sais. Et là on se ramasse avec le nouveau héros du peuple, en fait. Traitor devient le nouveau héros, et là ça c'était pas prévu par les producteurs, puis là on est obligé de faire c'est qui d'abord, lui il vient d'où, genre c'est quoi son entraînement, c'est qui, c'est quoi, puis on veut le savoir, puis on comble.
C'est ça, puis c'est là, à la limite, que je te contredirais peut-être un peu, Rachel. Je pense pas qu'Avatar était fermé. Je pense que les fans sont juste pas intéressés. Ouais. Parce qu'on aurait pu vouloir comprendre c'était quoi ces espèces de simili-dragons, simili-truites. Ça aurait pu être super, tu sais, ça aurait pu être comme les mecs qui viennent de où, qu'est-ce que c'est cette connexion-là, Wi-Fi qui vient des arbres. Il y a énormément de potentiel dans Avatar, mais...
Est-ce qu'il a été, mais pourquoi il a pas été saisi, ça?
Je pense sincèrement que c'est parce qu'Avatar est un univers qui est trop gonflé. Tous les éléments singuliers d'Avatar comportent plus d'une caractéristique. Et ça fait défaut. Star Wars, un Rancor, c'est gros, ça a une grosse gueule, ça a pas de cou. Ok, cool. Maintenant, tu sais, les créatures qui, dans l'épisode 2, à un moment donné, sont dans une arène, puis lancent comme trois bébites, puis les trois bébites sont comme genre quatre animaux mélangés ensemble. Personne se souvient d'eux autres. Il y a des caractéristiques qui ont pas été lisibles à l'œil. On sait pas c'est quoi. On veut pas le savoir. Avatar.
Mais Amiral Ackbar, on s'en rappelle en tabarouette.
Oui, Amiral Ackbar, il est facile à comprendre. Il est rouge, puis il s'excite. Genre, it's a crab!
C'est une crevette aussi.
Et oui, mais c'est ça, genre, c'est un animal à la fois. Avatar est un mélange de beaucoup de choses, puis en plus, moralisateur au bout. C'était pas le fun.
L'hybridation comme. L'hybridation dans Avatar fait que c'est un objet trop compliqué.
Une saturation d'hybridation,
ouais. Wow! C'est quand même assez intéressant. Puis ça doit être un défi très... ça doit être un gros défi à relever pour des producteurs de contenu. Et d'être capable de faire quelque chose qui est pas trop compliqué, mais qui inspire.
C'est la lisibilité est super importante, parce que c'est avec la lisibilité que tu comprends qu'il y a des trous à gauche, à droite, c'est comme ça que tu veux les combler. Avatar, dans son habillage visuel, ses couleurs et dans le détail, en plus, c'est un film qui est pratiquement juste du CGI, donc c'est que du détail fin tout le temps. Mm-hmm. C'est fatigant à l'œil. Moi, j'étais tanné.
C'est le mot, là.
Ouais. Effectivement. Ouais. Puis tout ce qu'on a parlé d'Avatar, là, tu sais, moi, de l'époque, ce que je me rappelle, tout ce qu'on parlait, c'était le retour de James Cameron. On parlait de l'argent. On parlait que d'argent. Et ensuite, il y a eu le gros hate parce que c'était l'arrivée de... On a replacé le 3D. On l'a bien fait cette fois-ci. Puis là, on a eu toute la trollée des films 3D après. Alors, les gens qui se plaignaient d'avoir mal en tête parce qu'ils voulaient pas s'adapter à cette nouvelle technologie-là.
Ça correspondait avec la montée des billets aussi parce qu'on vendait à cette heure avec les lunettes puis tout.
Moi, j'étais pas jaloux au cinéma à ce moment-là. C'est vrai qu'on a commencé à avoir des billets à 13, 15, 19 même aujourd'hui. Si tu vas voir un film 3D dans le D-Box ou au IMAX, là, c'est vrai que maintenant, ça coûte excessivement cher le cinéma. Probablement qu'il y a un lien avec ce que tu viens de dire, Guillaume. Et je pense que... mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est qu'on a parlé beaucoup de ça. On a parlé du fait que c'était si beau. On a parlé du fait qu'il voulait peut-être gagner l'Oscar puis qu'il n'a pas gagné l'Oscar. Puis finalement, c'est son ex-blonde qui l'a gagné. Moi, c'est tout ce que je me rappelle. Puis que ça ressemblait trop à Pocahontas. Puis qu'il y avait une critique. Mais est-ce que j'étais en train de me parler de... Ah oui, écoute, comment ils s'appelaient les créatures? Je me rappelle même pas.
Les Na'vi.
Bon, whatever.
Hey, non, mais en même temps, c'est drôle parce que ce que tu es en train d'écrire par rapport au gonflement des prix des billets, ça me fait penser à ce qui s'est passé avec les Variant, les Chromium, puis toute les éditions spéciales de comic book, La mort de Superman, les 13 covers différentes, Gen 13, Spawn No. 1, Young Blood, tout. L'inflation, puis la grosse spéculation qui s'est faite autour de la bande dessinée, le comic book super-héroïque à cette époque-là, a vraiment causé un énorme crash. Mm-hmm. Puis, si on prend en parallèle l'exemple d'Avatar, ça revient se connecter à quelque chose qu'on dit. Puis, je pense pas que les auditeurs vont penser que c'est all over, tu sais, comme c'est déficilé comme émission. Je pense qu'on est vraiment en train de faire une grosse boule de laine très cohérente. Parce que l'objet geek ne doit pas considérer son consommateur comme un consommateur. Avatar a peut-être dans son code pensé comme objet de consommation, puis c'est là où tout le monde a fait comme hey man. Je vais pas mettre de moi là-dedans. T'es déjà en train d'essayer de me vendre les lunettes. T'es déjà en train d'essayer de me vendre le...
Ben, ça s'appelle Avatar.
J'avoue.
Ouais. Le bout étant, genre, injecte-toi dans le film, s'il te plaît.
Ouais, exactement. Peut-être que l'invitation était trop grosse. Ouais. En quoi est-ce que Star Wars était un produit culturel qui avait une espèce de laisser-aller, puis tout le monde a fait comme « Hey, man, raconte-moi l'histoire du troisième joueur de flûte. » Suite. Non, c'est vrai, parce que ça a été comme une affaire de le gars avec le casque vert puis la petite antenne, je l'aime au bout, ramène-le dans le prochain film, donne-y un nom à son vaisseau, il peut pas mourir de même, c'est tout lui, tu sais, puis même que...
L'instant, il y a des rumeurs de spin-off.
C'est ça, c'est le personnage le plus important, le casque vert, je suis en train de parler de Boba Fett.
Il va être dans Rogue One.
Rogue One est un bon exemple, je veux dire, c'est une phrase dans un film. C'est une phrase. Plusieurs personnes sont mortes pour ces informations, ou je sais plus comment ça a été formulé exactement, mais c'est une phrase. Puis on se dit, tu veux savoir c'est quoi cette phrase-là? On va tout te l'expliquer en 2h30, tu sais. Parce que c'est sûr que ça va durer 2h30, parce que ça dure plus 1h30, les crises de film.
mais c'est le fun, 2h30. Tu sais, au moins ton 15$, t'es content pour 2h30, ça va.
T'sais, on parlait justement du fait de. Tu sais, c'est de l'investissement,
c'est ça.
Là.
Mais cette volonté.
Retour sur investissement, tu sais.
Il faudrait un retour des intermissions, on peut aller faire pipi à plein milieu du film.
Ce qu'il y avait dans Grateful Eight et qui était magnifique.
Parce que début du troisième acte, immanquablement, j'ai envie d'aller aux toilettes. Vraiment. C'est sûr, sûr.
Mais cette volonté de cohésion, en plus, dans Rogue One, ils l'ont poussé à son maximum, parce qu'ils ont commencé à avoir des théories des deux personnages principaux. Je me souviens plus, Jin, la fille, la protagoniste.
C'est ça, qui a le plein de noms.
Jin Erso, mais là, supposément que ça serait Jin, tel autre truc, qui est dans Star Wars Jedi Knight 2, qui est dans un jeu vidéo. Donc, volonté de cohésion encore, les geeks, le fandom essaient de rassembler tout ça dans un tout qui finalement ne sera peut-être pas
ou peut-être
Peut-être, on sait pas. Oui, mais bon.
Il y a pas déjà les rumeurs que ça serait la mère ou la grand-mère de Ray ou je sais pas quoi. Là, c'est déjà en train de se dire.
Mais, mon Dieu, oui.
Puis on a juste vu 3 minutes de film. Puis là, c'est comme, on en a plein.
Elle a le même accent.
Ouais. Mais on a envie de savoir dans quoi ça s'imbrique, dans à quelle partie de l'univers qu'on connaît, parce qu'on l'a cartographié cet univers-là et on le croyait complet. Et là, on se fait donner un morceau de 2h30 de film avec une panoplie de nouveaux personnages. On est comme, mais ma map est déjà complète. Où ça va, ça? Fait que c'est moins.
Ben, ça, mais il y a aussi notre façon d'aborder les objets geeks, c'est on présuppose une cohérence interne. Il faut essayer de recréer ça ensuite, puis après, on va voir si on est satisfait ou non avec le résultat final, si la cohérence est, si c'est bien justifié, si c'est bien construit et par rapport justement aux autres objets.
Oui, et à ce moment-là, les geeks, culture participative, on a frôlé le sujet tantôt, les geeks ont le pouvoir de décider si c'est canon ou non, finalement.
Et de décider si c'est bien fait ou pas bien fait. Moi, je pense juste à l'exemple de The Hobbit, que trois films, c'était trop. Donc, on a fait un montage de 2 heures avec les 3 films, puis ça a l'air que c'est très, très lisible, puis que c'est meilleur, justement, que la version de Peter Jackson. Donc, ça, c'est du fan-made, mais ça fait qu'on peut adapter, justement, les objets qu'on consomme selon notre désir, comment on veut être gay, comment on veut que notre fandom se développe.
Mais tu sais, on parlait justement que Avatar, peut-être que c'est le fait que ça a été trop vendu comme un objet de consommation qui fait que peut-être que ça a pas pogné, mais... Puis on définissait le geek justement comme la relation qu'il y a avec un objet, tu sais, donc avec justement une chose que tu consommes. Est-ce que dans le fond, ce qui fait qu'on s'accroche à quelque chose, est-ce que c'est l'investissement que nous on peut y mettre dans cet objet-là, dans le fond?
Moi, je pense que oui, c'est ça. Peut-être qu'Avatar était trop en train de tendre vers nous. Ouais. C'est comme la petite fraise dans Cloudy with a Chance of Meatballs 2. C'était comme juste en train de faire Love Me.
On les veut, les figurines de nos films préférés, mais il faut pas que tu me les vendes de force. Il faut que le jour où je me lève un matin, j'ai envie d'avoir la figurine qu'elle soit là.
Je comprends ce que tu veux dire.
Livrée par drone, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est quelque chose qui a été amené par les geeks.
Les compagnies, c'est ça, c'est vraiment ça. En fait, c'est que les n'importe quelle compagnie de cinéma, de jeux vidéo, peu importe, qui font les figurines, ça nous ramène à la définition de base du geek, qui est qu'une créature étrange qui mange des têtes de poulet. Mais en fait, c'est ça, c'est que les oui, c'est une créature étrange.
Non, mais
qui
ils mangent pas. Il faut quand même clarifier ça. Les arrachent, mais les avalent pas.
Les multinationales que sont Hasbro et Electronic Arts ont peur des geeks qui flattent le sens dans le poêle. Essaient vraiment de sudoyer cette personne-là. Et des fois, ça fait une discorde dans le fandom. Et des fois, ça divise carrément le groupe, et ça fait j'ai des amis qui ont arrêté de jouer à World of Warcraft parce que le lore ne faisait plus aucun sens à leurs yeux. Il y a des gens, bon, tuer des personnages, ramener des personnages qui étaient supposément morts, etc., etc. Et c'est ça, c'est que le problème, c'est qu'à force de flatter, le geek est rendu une masse informe, peu importe.
C'est le pouvoir qu'on a, en tant que fan.
En tant que consommateur,
c'est ça. Et de la même façon qu'une un petit post sur les réseaux sociaux, un mini post sur les réseaux sociaux, ça peut détruire un œuvre au complet. On peut avoir une critique qui est partagée puis qui va dire que tel film qui vient de sortir, c'est de la boîte, c'est pas bon, puis là tout d'un coup l'œuvre il faut donc plaire aux consommateurs comme tu disais. Puis il y avait quelque
mais
chose
plaire qui... mais pas trop, c'est ça, c'est que le fandom c'est une tension entre justement les personnes qui créent l'œuvre et les personnes qui consomment l'œuvre.
Ouais, mais il y a aussi une différence, parce que j'ai un peu de la misère avec le terme consommateur, parce qu'on n'est pas que des consommateurs. Parce que moi ça me fait juste penser justement aux théories par exemple de Baudrillard et compagnie. Donc le consommateur, c'est quelqu'un de passif. Le fan, en tant que consommateur, est un agent actif dans sa consommation. Donc il va décider s'il consomme ou pas, et non pas seulement recevoir de façon passive et aliénée le contenu. Donc justement, c'est ça, on a un pouvoir participatif en tant que fan et consommateur.
C'est ce que j'entendais beaucoup en relançant le terme, en fait. C'est ça, c'est voter par son argent. Dans le cas de la culture geek, c'est particulièrement vrai. On y va de boycott, qui est le geste le plus facile à poser, parce que ce n'est pas un geste, en fait. C'est rien. le nouveau Ghostbusters, j'irai pas le voir, c'est un geste facile parce qu'il est passif. Maintenant, aller voter avec son argent, donner de l'argent à la cause qu'on veut voir... je me plains que les films québécois ont passé de films de genre. Ouais. Là, il y a le nouveau Nitro Rush qui sort. Je vais être obligé d'aller le voir au cinéma.
Oh,
parce que je veux voter avec mon argent. Je veux qu'on se fasse des films d'action au Québec, même si lui m'intéresse pas ben.
Mais oui. Le fan de Fast and Furious en moi était moustillé, donc ouais.
Si mais il n'y aura pas de chars. C'est pas des chars dans celui-là. C'est une course contre avec des dealers de drogue puis tout ça.
Ah.
Et trop rush, c'est comme un genre de speed.
Ah ben ça manque non, ça oh manque boy. De ça manque de non.
Non parce qu'ils ont changé de style parce que les chars c'est plus à la mode.
Ben,
c'est plus l'affaire qui est in. Parce que là, ils sont comme sur la trollée du. Bref.
Ben là, ouais,
non, mais j'entendais
l'entrevue
ce matin. Moi, j'ai juste vu le titre, mais sans lire là-dessus. Parce que j'ai fait, oh mon Dieu, c'est sur Nitro, ça m'intéresse pas. Mais là, maintenant que tu me parles de ça, ça m'intéresse encore moins.
Il y a un plan séquence de 3 minutes d'une scène de combat.
Oh, mon Dieu.
Je sais pas si ça.
Mais est-ce que c'est dans un couloir avec un marteau?
C'est ça, on est
très malade.
Je veux pousser la notion de consumériste, mais en même temps, peut-être une idée de que juste, on va rajouter un mot pour voir si ça change tout, mais tu sais, dire du consumérisme responsable. Il y a une anecdote qui m'a été racontée par une fille qui a fait sa maîtrise en traductologie à Concordia. Elle a travaillé sur les animés, notamment sur Berserk, puis elle me disait que les communautés de subbers, donc les gens qui créent des
sous-titres,
de sous-titres, sont extrêmement efficaces, plus efficaces que vous pouvez l'imaginer.
Oh oui, oh oui.
Ils font des blanc comme 35 minutes, l'épisode il y a Air pis tout. Essentiellement, c'est pour combler le vide international. Donc, l'idée que l'épisode de Game of Thrones sort dimanche de 8 à 9, je pense, puis là, à 9h30, l'épisode est téléchargeable, en version originale seulement, puis qu'à 9h40, pardonnez-moi, il y a quelqu'un qui va avoir uploadé une version de sous-titres pour que n'importe qui puisse écouter, donc des sous-titres en polonais, des sous-titres en... Elle, par rapport au fandom de Berserk, qu'est-ce qu'elle m'expliquait, c'est que le marché américain n'achetait pas les films de Berserk. En fait, les distribuait pas. Et que la communauté de Subburn s'était tous inculqués d'une valeur que on va faire les sous-titres, mais si le DVD sort avec des sous-titres en anglais, c'est aussi notre responsabilité de l'acheter. Même si on l'a déjà vu. Même si on l'a écouté, on a téléchargé le film, on l'a téléchargé parce qu'il n'est pas disponible dans notre région, on a téléchargé les sous-titres et on les a fait les sous-titres parce que les compagnies ne l'ont pas fait, mais il ne faut pas que les compagnies voient ça comme un « ben on ne va pas
faire le
plan ».
On n'a pas besoin.
Exactement. Donc, il y a une entente tacite de ces communautés-là de dire « ben quand ils vont le faire, on va l'acheter, comme ça ils vont voir un profit et ils vont vouloir continuer à le faire. » Il y a une consommation responsable ici.
Ouais.
Je vais pas acheter n'importe quel gugus.
Une consommation réfléchie aussi.
Ouais.
Peut-être.
Il y a un objectif derrière la consommation.
C'est
drôle que tu dises ça parce qu'il y a un peu le même débat actuellement avec Game of Thrones. Les consommateurs canadiens se plaignent justement du manque d'accessibilité de Game of Thrones au Canada parce que ça oblige souvent les gens à devoir s'abonner à Bell avec des forfaits à 60$ juste pour HBO. Alors que HBO Go ou non, je sais pas lequel des deux, n'est pas encore tout à fait disponible. Tu sais, c'est 5$
par mois. Uniquement disponible par des forfaits au Canada.
C'est ça, des forfaits au Canada, donc
ça me faisait penser à moi. OK, mais c'est ça, c'est très intéressant, parce que ça, le voter avec son argent devient un poids d'un argumentaire, mais tu sais, devient vraiment, tu sais, c'est intégré dans
le
climat.
Mais qu'est-ce qui se passait lorsqu'on ne peut même pas voter avec son argent? Dans le cas de Game of Thrones, c'est ça qui arrive, en fait. Donc, le consommateur, il est perdu.
Et la volonté d'aller voir les choses, d'aller les consommer le plus rapidement possible parce que tu ne veux pas te faire gâcher. Dans le cas de Game of Thrones, c'est un bon exemple. En plus, ils veulent que tu ailles le télécharger. Ils veulent que tu t'abonnes.
Ouais.
Parce que là, tu le verrais live. Alors, t'es sûr d'être la première personne, dans les premières personnes qui le consomment. Mais là, effectivement, on n'a pas accès à ça. Et ensuite, t'es confronté à un univers que si tu t'intéresses un petit peu aux médias sociaux puis tu y traînes, t'es foutu, là. Tu vas tout savoir 2 heures après que l'épisode soit sorti.
C'est la culture du spoilers.
Ouais.
Ça sort tout.
Alors, c'est pas pour rien que je suis allée voir Star Wars toute seule à 2e rangée. J'avais le cou super courbé quand il est sorti, la journée de sa sortie, parce que je me suis dit, c'est pas vrai que... Je veux dire, le film est pas encore sorti. Ça fait, je pense, la première représentation a été faite. Et c'est déjà des affaires que je devrais pas savoir. Là. Fait que là, je suis comme déjà déçu.
Mais c'est la culture des... voilà. C'est la culture des mimes, beaucoup aussi, qui nous divulgâchent tout ça.
C'est vrai.
Parce que je suis pas à jour dans Game of Thrones. Je connais le secret du nom de Hodor parce que l'Internet l'a gâché, parce qu'ils ont fait
même
une
chose.
Série de blagues là-dessus.
Oui.
Série de blagues. C'était quand même assez subtil. Tu sais, au bout de 2-3 blagues, tu finis par faire des références croisées, tu comprends. Ah ben, c'est ça. Mais on revient à l'idée du code, de porter un code. Genre, t'as créé une blague qu'il fallait que t'écoutes l'émission pour la comprendre, mais à un moment donné, à force de graviter dans cet univers-là, tu finis par le décoder, ce code-là.
Ouais.
Mais
on est pris dans du cross-referencing culturel, donc on est capable de reconnaître des choses, comme tu parlais tantôt, les Weeping Angels. On les reconnaît malgré qu'on ne les connaît pas.
Ouais. Mais le nom le dit aussi, des Weeping Angels, c'est des anges qui pleurent.
Qui pleurent. Si tu vois un ange qui pleure,
ça pourrait...
Qui peut voir des pleurs dans la pluie?
Oui. Non, Mario.
Parce que tu n'y verras qu'un petit peu.
Mais c'est ça, on le sait qu'ils sont pas fins, on le sait qu'ils peuvent pas bouger.
Non. Qu'est-ce que j'ai dit?
Pouette.
Non, mais tu sais, je vais prendre l'exemple des gentlemen dans Buffy.
Oui.
Tu sais,
les
gentlemen dans Buffy, c'est pas tout à fait identifiable, c'est qui? Ça peut être Giles. C'est comme Manu, il est crissement dans. Mais.
Le seul défaut de Buffy, c'est d'être paru dans les années 90. À la télévision, tout le monde sera au courant.
Mais tu vois, moi, j'ai jamais vu la finale de Buffy parce que je voulais me la préserver pour le bon moment.
Oh.
J'ai pas vu les trois derniers épisodes et la semaine passée. J'ai quelqu'un qui m'a... Et j'ai réussi. C'est sorti dans les années 90. Ça finit début des années 2000. Et la semaine passée, j'ai un super bon ami qui le sait que j'ai pas vu le dernier épisode. Et qui m'a dit, mais tu sais que tel personnage meurt à la fin. Puis j'étais comme, quoi?
Non, ça, c'est pas grave.
Non, mais c'est pas... Non, mais je vais l'écouter.
Angel?
Non, mais c'est pas grave. mais je suis en train de les écouter en ce moment avec mon copain. Puis justement, c'est que... je sais plus où je m'en allais avec ça, mais tu parles de divulgateurs et tout ça.
Mais parce qu'on est dans un écosystème de divulgateurs, on est dans un écosystème d'alimentation d'informations.
Un terrain miné, en fait.
Terrain miné, mais aussi de inside. L'humour est pratiquement rendu un espèce de clin d'œil de, tu sais, si tu la catches pas, si tu catches pas le skit de Eddie Izzard sur Darth Vader à la cafétéria du Death Star, il te manque des affaires, ça sera pas particulièrement drôle. Fait qu'on est retour au terme isolation.
Ouais, mais est-ce que c'est du test? C'est des identifiants?
Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est encore... On est très, très conscient de la dynamique qui existe chez les geeks. La dynamique à l'objet, la dynamique... Mm. Tu sais, en tant que bon geek, il y a un assez bon stade de méta-réflexion. On est peut-être rendu au point où on est même en train de jouer avec cette méta-réflexion-là. Comme si je pèse le bouton deux fois, si je recule de trois pas, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, t'es un peu dans le jeu vidéo à essayer de comme trouver les murs invisibles.
Mais c'est une notion autour de laquelle on tourne depuis tantôt sans la nommer, le geek cred.
On a 15 minutes.
Voilà. le geek cred, hein, le crédit, genre être un bon geek ou un mauvais geek, c'est comme ça qu'on s'évalue. Ouais. Et là, en absence d'une figure d'autorité dominante qui définirait toutes ces choses-là pour nous, on est pris à les définir nous-mêmes. Ouais. Et le geek cred rentre en ligne de compte. C'est-à-dire, quelqu'un dit, fait une blague, fait une référence, porte un écusson, un chandail. Il faut que tu comprennes tout ça, là.
Ouais.
Faut t'en comprendre le plus possible, puis tu vas être bien, bien hot.
Ouais, c'est ça. Puis c'est la personne qui score le plus haut chiffre dans le mini-test de reconnaissance qui est comme l'alpha. Puis ça fait des weird de bout de... Ouais.
Ouais. Je pense qu'on a tous vécu des situations comme ça.
On peut vivre dans un quiz perpétuel sur c'est quoi le nom du père de tel personnage secondaire dans...
Tellement! Ben c'est vraiment ça, c'est que t'as l'impression d'être continuellement testé, puis le moindrement, tu sais, la moindre faille, ben là!
Mais il y a aussi, pour rentrer dans des questionnements, pour annoncer aussi la prochaine émission sur le dark side of du phénomène, il y a le fait qu'en tant que fille, vu qu'on a souvent été rejetée de ça, on vit dans un quiz perpétuel.
Totalement.
De si tu mets un chandail des Avengers, ben là, il y a quelqu'un qui va te demander, ben nomme-moi tous les bonhommes qui sont ton t-shirt.
Ça me fuck bien radieusement
leur belle-mère.
Font ça, moi. J'en reviens pas qu'il y a des gens qui font ça, puis je trouve ça fantastique. J'ai remarqué qu'on a une parité complète dans l'émission.
Je veux le shout-out depuis le début.
Je m'en suis comme pas du tout rendu compte.
Non, nous avons la parité, c'est exceptionnel.
Moi, je suis fâché quand je vois une fille avec des t-shirts de même, parce que il y avait pas ça quand j'étais adolescent.
Oui, c'est ça.
J'aurais tué pour que les filles soient aussi ouvertes avec leurs intérêts, qu'on puisse connecter plus facilement. Bâtard.
On t'est arrivé au bon moment. Moi, je suis dans la bonne génération.
Mais c'est ça, moi, parce qu'on en avait parlé en préparation de l'émission. Isabelle, Rachel, vous en parliez. Oui. Ça me dépasse. J'ai jamais été testé. Puis, je sais pas comment je réagirais s'il y a quelqu'un qui...
Parce que t'es une figure d'autorité.
Moi, c'est weird.
Mais
dans ton cas,
écoute, je sais qu'on va en parler bientôt, fait que je voulais pas comme trop embarquer là-dedans, mais non, tout ça, tu sais, je pense que si je peux finir, tu sais, dans la conclusion de l'émission, si je peux juste dire que je pense que le geek, qu'est-ce que c'est un geek? Ben, je pense qu'on a posé plein de questions et on répondra pas à toutes ces questions-là, mais ce que je sais qui est sûr, c'est que il y a rien de plus insultant, je trouve, que de s'investir, de se représenter, de s'identifier à des fandoms, de vouloir être à la rencontre, de vouloir être dans la discussion, d'apporter, de se dire,
de
je suis
curieux.
Exactement, je veux partager, je suis curieux et tout ça, et de se faire renvoyer, ouais, de se faire dire, va-t'en, je te rejette, je ne veux pas de toi, ou je, et, bon, je veux pas rentrer dans le fake geek girl parce qu'on va en parler bientôt, oui, mais ouais. Tu sais, c'est ça. C'est exactement ça. Puis c'est de se dire comme j'ai besoin, moi en tant que geek, et je sais pas pour vous les filles, mais c'est ça. J'ai besoin de me prouver. Et je suis. Et je sais, c'est ridicule. Ben, je sais que je vois ça parce que c'est ridicule.
Mais ce sentiment-là, il est là pareil.
Je
c'est
sais,
ça qui est plate,
ça me répugne. Parce que pour moi, geek, j'ai fait ce dithyrambe-là à une émission au Geekette, La vie sacrée des geekettes, que eux autres utilisent le mot geekette, puis j'étais comme très critique envers eux autres parce qu'ils étaient genré. Puis j'étais comme, ben non, geek, c'est un mot.
C'est geek.
Ça fonctionne pour tout le monde. C'est inclusif.
Mais ce quiz perpétuel, c'est un peu un c'est triste, puis je
bannis
ça totalement, mais c'est un peu un genre de mécanisme de défense des adolescents qui se sont fait niaiser toute leur vie. Puis,
je voulais pas aborder la question, je trouvais ça long pour finir, mais t'as raison.
C'est important d'en parler.
C'est une question
parce
d'être accepté puis refusé d'une communauté, avoir été bouillé, avoir été rejeté de... Quand t'étais rejeté de ta vie sociale à l'école, adolescent, ce que t'avais pour te réfugier, t'avais les mondes imaginaires, t'avais la fiction.
Ouais.
Maintenant, t'arrives à une époque où la fiction, elle est glorifiée.
C'est ça.
C'est ta chance.
C'est ton tour, mais ça, c'est là où je trouve ça dégueulasse, parce qu'il y a des gros geeks dans culture.
Ils sont comme, ouais, je suis rendu big shot.
C'est ça, c'est des...
Fuck toi.
C'est des pires bullies que les gars qui vont au gym. C'est des pires bullies que les gars qui vont voir Nitro, que eux autres, ils sont faits. Non, mais je vais généraliser, puis c'est vraiment pas, je m'en parle.
J'adore Fast and Furious, Jim, puis je demande maintenant une émission Fast and Furious, ça se passera pas comme ça.
Non, mais j'adore Justin Lin, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est comme, j'ai grandi dans un climat où je craignais les gens qui faisaient du sport. Ouais. Maintenant, je vieillis dans un climat où je crains les gens qui ont tous lu Captain America. Peut-être pas Captain America parce que ça fait des bonnes personnes. Mais.
Mais Iron Man.
Ouais, c'est ça, tu sais. C'est eux autres que je suis comme.
Spawn.
Spawn. Ouais.
Je sais pas.
C'est super étrange que c'est les geeks qui sont rendus les plus gros bullies de toute la gang. Puis ça me blesse de savoir que cette épithète-là,
mais
que
moi je trouve que c'est complètement normal. Ouais. C'est complètement. Non, mais dans le sens. Non, mais je sais pas que c'est correct. Je dis que c'est quand tu comprends la psyché humaine, tu finis par comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, la fameuse, tu sais, je vais me fermer, je vais me créer une coquille avant d'être attaqué. Je vais mordre le premier avant de me faire mordre. Tu sais, c'est une façon de se valoriser. Puis je veux pas rentrer dans mes affaires mais je pourrais rentrer dans mes affaires de mon propre domaine d'études, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est que, à un moment donné, les gens, ils doivent se défendre. Puis si on s'est défendu à un certain moment en s'appropriant une culture, puis en disant « ça, c'est mon affaire, ça m'appartient, puis c'est moi qui va te le montrer », ben rencontrer quelqu'un qui est moins bon que toi, c'est hyper valorisant. Et rencontrer quelqu'un qui est meilleur que toi, c'est hyper frustrant.
Mais ce geek-là, je m'excuse de t'interrompre.
Non, c'est correct, je suis juste en train de comme...
Non, t'es vraiment excité, c'est bon.
Vous devriez le voir, on devrait te filmer.
Ouais, brandir les poings. Non, mais ce geek-là, justement, qui est le Bob Barker éternel de la geekitude... Je m'excuse, fallait que je plaque Bob Barker. Mais non, mais cette race-là de geek, entre guillemets, là, donc c'est en train de disparaître, là, c'est fini. Moi, je suis dans la génération entre deux, où avant ça, la geekitude, moi, je l'ai commencé avec Harry Potter, puis encore là, je me sens entre guillemets, parce que quand j'ai commencé à lire Harry Potter, l'humanité avait déjà lu Harry Potter. C'était vraiment déjà fait, mais...
Okay.
Cette geekitude-là de, justement, cloisonnement, moi, j'étais pas mal sur la fin. J'avais une grosse gang d'amis au secondaire. On était genre une quinzaine, mais on jouait tout à D&D, tu sais. Je parlais à d'autres personnes qui étaient pas geeks, on va dire ça comme ça, qui étaient pas geeks, qui étaient dans le sport-études, whatever. Puis je parlais avec eux autres. Ça allait, tu sais.
Mais c'est là où, tu sais, je rejoins les propos de Guillaume de comme... À notre époque, là, si je peux me filier générationnellement de cette manière-là, on n'avait pas les t-shirts.
C'est ça.
Fait que là, tu sais, le t-shirt que tu parlais comme objet de représentation, je peux voir que, man, si tu portes un t-shirt de Silver Surfer, c'est que tu.
Puis maintenant
que tout le monde en a un, je comprends pas pourquoi on n'est pas content. Puis en même temps, le geekdom m'a tellement appris à être inclusif via Spider-Man, via. Tu sais, les valeurs essentielles proviennent de occupe-toi des pas plus faibles. Parce que dans ce cas-ci, non, mais tu sais. occupe-toi des autres, occupe-toi de n'importe qui d'autre. C'est ça qu'on m'a inculqué. Je comprends pas que quand t'es rendu vieux, t'es comme.
Ah, c'est ça. Mais c'est les vieux, c'est les vieux geeks qui se sentent menacés, on dirait, par cette inclusivité là de la culture. Je sais, mais je voulais en parler, mais c'est pas grave, il reste 8 minutes. Mais tu sais, comme le Gamergate, c'est exactement ça. Tu sais, on n'en parlera pas non, super longtemps.
On annonce la prochaine émission.
Ouais,
mais le Gamergate, c'est ça. C'est des vieux geeks qui se sentaient bien dans leur fandom, dans leur cocon avec des guns et tout ce qui va avec ça. Hein? Et que là, un moment... Non, mais cocon, genre masculinité militarisée et compagnie.
Cool, merci. Oui, dans ce sens-là, moi, c'est dans ce sens-là que dans je disais ça pour le cocon. Okay. Ouais.
Avec des Schwarzenegger et compagnie. Puis là, à un moment donné, ben t'as des gens comme Anita Sarkeesian qui essaie de rassembler tout le monde, hein, les geeks. On est ensemble. Il n'y a pas de gameuse, il n'y a pas de gamer, mais il y a des gamers, peu importe le genre. Puis c'est même le genre n'est pas binaire, peu importe, on s'en fout. Il y en a pour tout le monde. Et ça fait que les
vieux geeks... Ça a été perdu comme une attaque.
Ah, c'est ça. Mais Anita commençait tous ses vidéos de la même façon. C'est pas parce qu'on apprécie une œuvre qu'on peut pas être critique.
Ben oui.
Puis quand on est à Pop en Stock, c'est ça qu'on fait. On évalue, on met autour d'une table plein de gens qui ont des lunettes différentes, qui voient pas la vie de la même façon, mais qui ont tous un intérêt pour quelque chose, puis qui va venir en parler, puis qui va le critiquer, puis qui va voir ses forces et ses faiblesses, tu sais. Puis je pense que ça, c'est sain. Puis en tant que geek, c'est sain qu'on ait ces conversations-là. Puis si on a envie, en plus, que ça aille plus loin que l'œuvre, que ça aille plus loin que le 2 heures que t'as passé là, puis que tu veux que ce moment de 2 heures-là que t'as passé devant un film ou ta série télé ou ton comics, tu veux que ça se préserve, tu veux que ça se continue, tu veux jamais que ça s'arrête. Puis c'est quand t'arrives à avoir cette maturité-là, je pense, que t'es en train de vraiment devenir quelqu'un dans la réflexion, et c'est là que c'est intéressant. Puis quelqu'un du Gamer... Les gens du Gamergate, je pense que c'est des gens qui étaient... Bon, bref, on en parlera à la prochaine émission. Ouais. Mais...
T'as eu une envolée, là, pis t'es juste comme... Ah. Ah.
Mais reste à l'écoute.
Oui, parce que t'as dit à Pop en Stock, mais pour moi, c'est un ingrédient du geekness, c'est de vouloir... Dès que t'es un tantinet intéressé à un point tel de la passion... envers l'objet, t'es prêt à le critiquer, t'es prêt à le revirer de bord, t'es prêt à le comparer, t'es prêt à l'hybrider. Ça fait partie... Je serais très méfiant d'un geek qui ne veut pas...
Non, c'est pas automatique. Il y a des gens qui définissent leur identité par l'œuvre ferme et fermée, et c'est ça.
C'est la sola scriptura, mais geek de geek.
Tabarouette, toi! Ben regarde...
Ça m'arrive.
Vous êtes exceptionnel, puis je vais prendre le dernier 30 secondes pour vous remercier de cette émission-là.
Merci.
On va te remercier, toi, Jean-Michel.
Non, arrêtez.
C'est la centième!
Ferme tous vos micros pour que vous arrêtiez.
C'est le Jean-Michel Berthiaume Rédemption.
Non, c'est ça, non, mais arrêtez ça. Parce que qu'est-ce qu'on a parlé, puis c'est pour ça que l'émission est importante, parce qu'on a thématisé l'activité qu'on fait depuis maintenant 100 épisodes. On a, de façon très méta-réflexive, on a reviré l'émission sur elle-même, puis on a décidé de parler d'un objet, mais je pense qu'on parlait pas mal de qu'est-ce qu'on fait tous et toutes. Le fait que ça prend quelqu'un qui pèse les pitons ici, ça c'est un autre affaire, puis c'est moi le gars qui fait pitons, that's it.
On peut faire une émission sur Pop en Stock, éventuellement.
Ouais, ça va être weird. Mais bon, je veux vous remercier tout de même, merci énormément. On va revenir pour cette émission-là du Dark Side, puis je veux remercier aussi les auditeurs, les gens qui sont abonnés, les gens qui laissent des commentaires, les gens qui participent sur notre page Facebook, les gens qui font, tu sais, que juste...
C'est grâce à vous qu'on fait ça.
Oui. C'est vraiment... Oui, en quelque sorte. Je fais un peu la radio dans le vide. J'ai pas l'impression qu'il y a grand monde qui l'écoute. Quand il y a quelqu'un qui l'écoute, je suis comme « Oh, wow, t'existes, c'est donc bien cool. » On a le gros colloque qui va se dérouler vendredi, samedi. Ouais. Venez voir les personnes. Il y a des macarons.
Des autocollants aussi.
Il y a des autocollants.
Et donc, des signets.
On va aller.
Oh mon Dieu!
On a du merch.
Il y a pas un truc? Il y a un truc aussi.
Oui,
ça me flabbergasse. Je suis comme « Ouh, truc de livre. »
Oui, il y a un truc de livre. On va aller écouter Kindness parce que c'est un peu de ça qu'on parlait.
Oh.
Bonne semaine à tout le monde.
Bye. Bye-bye.